Bon dimanche à tous et à chacun. Vous savez, quand je faisais l'école du dimanche, souvent on chantait un petit chant qui disait « Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous ». Et vous savez que, à part d'être au ciel, la meilleure place sur la terre, c'est d'être en famille, dans l'église. Mais ça, c'est le bâtiment, mais je parle du corps de Christ et d'être autour du Seigneur Jésus-Christ. À quelle grâce que le Seigneur nous a accordé. Puis c'est un avant-goût du ciel. Et j'espère que ce matin, vous êtes en train de, malgré les difficultés que nous pouvons vivre, des situations difficiles, que quand même le Seigneur puisse vous donner de la joie, de l'espérance, du courage, sachant que ce serait juste pour un temps. Et un jour, ça va être du passé. On sera dans sa présence pour l'éternité. Fini les tracas, fini les doutes, fini des luttes, fini des problématiques. C'est l'éternité, c'est le bonheur, c'est la joie éternelle. Alors ce matin, nous avons un message qui s'intitule... c'est une suite d'un message que j'ai déjà donné ici. C'est le troisième dans la série. Église, voici ton Dieu. Et à travers ce message, nous sommes en train de focaliser sur la personne de Dieu. Un peu comme Israël, quand ils ont fait leur statue, pas la statue, mais la vache d'or, et qui ont élevé cela, puis ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais nous voulons ce matin regarder justement au Seigneur et dire, Église, voici ton Dieu, voici comment il est. Alors, le premier message, nous avons parlé de Jéhovah, Raha, qui veut dire l'Éternel est mon berger. Et nous avons chanté ça il y a quelques instants, qui nous parle justement comment Dieu est pour nous un berger qui prend soin de nous, qui nous conduit, qui nous entoure, et même le bon berger, comme Jésus qui a dit, qui a donné sa vie pour ses brebis. Le deuxième message dans cette série était Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Et l'emphase a été mise pas nécessairement sur la guérison physique. On sait que le Seigneur est capable de nous guérir physiquement, mais nous avons besoin d'un plus grand de guérison que cela. C'est la guérison spirituelle, la guérison de nos âmes. Et souvent, à travers les problématiques de la vie, des difficultés, des déceptions, toutes sortes de choses difficiles, nous avons besoin du Seigneur comme celui qui guérit nos âmes, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous donne justement cette force de continuer à travers de sa grâce. Alors ce matin, nous voulons alors regarder le troisième message dans cette série. L'Éternel, ma bannière, Jéhovah Nissi. Et vous savez, c'est un contexte, on va voir le texte tantôt, Exode chapitre 17, mais nous sommes ici dans un contexte de guerre. Et c'est un événement qui a eu lieu dans la vie des enfants d'Israël. Tout de suite, pas longtemps après leur sortie d'Égypte, où est-ce qu'ils étaient esclaves. Et en parlant de guerre, on nous dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le soldat le plus redoutable, c'était le soldat japonais. Et il y avait une raison pour cela, parce que dès son enfance, il avait été enseigné, ça avait été inculqué dans sa tête que c'était un honneur. Et même si c'était nécessaire, un devoir de mourir pour l'empereur. À l'époque, c'était l'empereur Hirohito. Et lorsqu'il y avait des batailles, et même s'il était évident que la bataille avait été perdue, c'est rare que le soldat japonais déposait les armes et se rendait. Au contraire, il faisait deux choses. Soit il se suicidait, ou bien, même s'il n'y avait plus de balles pour tirer sur l'ennemi, il mettait sa baïonnette sur son fusil, puis charger l'ennemi. Il continuait à se battre, même si il savait qu'ils avaient perdu. Et voilà pourquoi la bataille de Iwo Jima, qui a eu lieu sur une petite île dans la Pacifique, proche du Japon, était une des batailles de la Deuxième Guerre mondiale les plus sanglantes. On nous dit qu'à la fin de cette bataille, il y avait 7000 marines des États-Unis qui ont été tués, 17 000 qui ont été blessés. Mais au début, il y avait une patrouille. Ils ont grimpé au sommet du mont Suribachi. Et là, ils ont hissé justement le drapeau américain. Et ça, c'était un moment important, un moment plein de signification pour les autres marines qui étaient sur l'île. On nous dit qu'il y avait 71 000. Et quand ils ont vu le drapeau, cela leur a remonté le moral. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en face d'un ennemi féroce. Ils avaient besoin d'être encouragés et fortifiés face à cet ennemi redoutable. Et si nous revenons à Israël, nous sommes aussi, comme je l'ai dit, dans un contexte de guerre. Israël est impliqué dans une bataille. Et la raison qu'on peut poser la question, mais pourquoi? Mais vous savez qu'Israël, quand ils ont quitté Égypte, Dieu avait un plan pour Israël. Ce plan, c'était quoi? De les amener dans un pays d'abondance, le pays promis, le pays de Canaan. Et là, Dieu avait pour eux, Israël, une bénédiction. Il voulait faire de cette nation une bénédiction pour les autres nations alentour. Pour justement montrer aux gens, les païens, comment est-ce qu'un peuple qui avait Dieu pour le Dieu, pouvait être un peuple béni. Et Dieu aussi voulait bénir aussi Israël par la suite. Alors on parle de ce pays comme un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Mais vous savez, Dieu, il y a des ennemis. Et puisque Israël maintenant est sous la bannière de Dieu, les ennemis de Dieu deviennent aussi les ennemis d'Israël. Et tout de suite après la sortie d'Égypte, on va rencontrer justement un ennemi qui a un seul but, de détruire ce peuple pour les empêcher d'entrer dans la terre promise et bénéficier des bénédictions que Dieu avait pour son peuple. Et vous savez aussi, nous aussi, nous sommes dans une guerre. Et c'est une parallèle frappante entre les enfants d'Israël et le chrétien. Et nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes aussi en guerre. Parce que Dieu aussi nous a promis une vie d'abondance. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, ça il part du salut, et qu'elles l'aient en abondance. » Lui, second, va dire qu'elle soit en abondance. Mais la traduction qui est plus littérale, on ne parle pas d'une vie d'abondance, une vie abondante de façon matérielle, sur le matériel. Jésus est en train de mettre l'emphase sur une vie d'abondance sur le plan spirituel. Et qu'est-ce que c'est au juste cette vie abondant sur le plan spirituel, mais c'est une vie tout d'abord qui remplit les besoins pourquoi Dieu nous a créés. La première chose que nous devrions être dans toute notre vie en tant qu'enfants de Dieu, c'est être les adorateurs. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dieu nous a créés pour lui-même, pour que nous puissions l'adorer. Et une vie d'abondance, quand nous sommes dans justement cette vie abondante, nous sommes en train de remplir ce à quoi Dieu nous a appelés. On est des adorateurs de Dieu. C'est aussi une vie où est-ce qu'on est des serviteurs de Dieu. Et quand nous sommes des serviteurs de Dieu, il y a deux choses qui arrivent. Dieu nous bénit et nous sommes aussi des sources de bénédiction pour nos contemporains. Et ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs manières. Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et Dieu, dans cette vie abondante qu'il veut nous donner, justement, veut que nous remplissions ses fonctions pour que nous puissions avoir un impact dans notre société et apporter la lumière, apporter une saveur, apporter l'espérance à ceux qui nous entourent. Mais aussi, nous allons bénéficier quand nous sommes dans cette vie d'abondance parce que pour faire ces choses-là, il faut être quoi? Rempli de l'Esprit. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait en nous? Mais il nous remplit quoi d'amour? Tout d'abord pour Dieu et ensuite pour notre prochain. Il nous remplit aussi de joie. Il nous remplit de paix et tous les fruits que nous avons dans Galates, ce sont les choses qui découlent aussi de cette vie abondante. Mais vous savez une chose, comme Israël, vous et moi, nous avons des ennemis. Des ennemis qui cherchent à saboter ce plan de Dieu pour vous et moi. Les ennemis qui veulent justement qu'il n'y ait pas d'adoration, qu'il n'y ait pas de service, qu'il n'y ait pas de joie, que la vie chrétienne devienne une vie plate, médiocre, ça devient une corvée, ça devient justement des règlements. Faites ceci, ne faites pas cela. Que même parfois nous avons nous avons envie de tout abandonner, de tout lâcher, à cause justement que nous subissons des défaites et des défaites et des défaites. Mais malgré ces attaques de l'ennemi, Dieu nous appelle à une vie victorieuse, cette vie d'abondance. Alors la question que je me suis posée quand j'ai préparé ce texte que je vous pose ce matin, c'est où sommes-nous ce matin? Si je regarde, j'ai deux colonnes, victoire et défaite. Où est-ce que moi je me situe là-dedans? Est-ce que vous vous situez là-dedans? Est-ce qu'il y a plus de victoire dans la colonne et dans la colonne de moins, il y a moins de défaites? Est-ce qu'il y a plus de défaites qu'il y a de victoires? Est-ce que vous êtes ici ce matin découragé, abattu à cause du fait que c'est défaite après défaite après défaite? Et même peut-être vous avez envie de lancer la serviette. Et je dis ça pas cela pour vous culpabiliser, parce que moi aussi j'ai mes propres combats. Et ce message que je vous donne ce matin, c'est pour moi premièrement, autant que pour vous. Et je connais mes combats. Et je connais aussi mes défaites. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, Jéhovah Nissi, est capable de nous donner la victoire. Alors comment accomplir alors cette mission à laquelle Dieu nous a appelés? Comment marcher de victoire en victoire? Je ne veux pas dire de toujours remporter les batailles, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est d'avoir une vie où est-ce que, oui, malgré les défaites, mais que cette défaite devient de plus en plus rare, que nous allons de victoire en victoire, que nous progressons dans cette vie abondante à laquelle Dieu nous a appelés. Alors pour cela, je vous demande de prendre vos Bibles et nous allons lire un texte dans Exode chapitre 17 et on va commencer au verset 8. Exode chapitre 17 au verset 8. Alors, le texte dit ceci, Amalek, ça c'est l'ennemi dont je vous ai parlé, vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura gain de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et voilà notre texte pour ce matin. Ce contexte, où est-ce qu'on va maintenant regarder notre Dieu? Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Et comprendre comment il est possible d'avoir la victoire à travers justement ce récit qui nous est donné dans le texte. Alors, dans un premier temps, voilà l'ennemi. Il dit souvent dans n'importe quel guerre, une chose qui est très importante, c'est de connaître votre ennemi. Et là, ici, nous avons, il y a question d'un ennemi qui s'appelle Amalek. Il y a deux choses ici. Bon, Amalek, c'est le petit-fils. Cette nation est descendue du petit-fils d'Ésaü. Et vous savez que Ésaü et Israël, ce sont des descendants de Jacob. Et vous savez qu'il y a eu justement les flammèches entre les deux frères. Et sans doute cette nation-là a continué cette tradition maintenant de haïr Israël jusqu'au point de vouloir l'exterminer. Alors c'est un ennemi redoutable. Pourquoi? Parce que Israël vient de sortir de l'Égypte. Ils ont été esclaves. Et voici maintenant, il faut qu'ils soient confrontés avec un ennemi, des hommes qui sont des guerriers. Et Israël, ils n'ont pas de formation militaire, rien. Alors, ils sont devant un ennemi vraiment redoutable. Et cet ennemi est venu justement pour, comme je dis, les exterminer, les battre justement. Et Israël doit faire face à cet ennemi, un ennemi redoutable. Ensuite, c'est un ennemi rusé. Il y a un texte qui nous donne un peu plus de lumière des tactiques, justement, d'Amalek lors de cette guerre. On lui dit ceci, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek. » Il parle justement du récit que nous avons lu dans Exode chapitre 17. « Comment il te rencontra dans le chemin. » Et voici ce que Amalek a fait. « Et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. » Sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Alors, un ennemi qui décide, OK, voici la façon justement que je vais attaquer et démoraliser ce peuple-là. On va prendre un chemin rusé justement pour avoir les dessus sur eux. Et la troisième chose que je vois ici, c'est un peuple qui résistant, parce que Dieu va dire à Moïse, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est un peu comme le soldat japonais, il refuse de se rendre, on peut dire, ok, on a perdu, ok, j'abandonne, mais non! De génération en génération, Amalek va être là, il y aura toujours la guerre contre Israël. Et comme j'ai dit au début, je répète, le but d'Amalek, justement, c'est d'empêcher les enfants d'Israël d'entrer pleinement dans le plan de Dieu pour leur vie, d'aller dans le pays d'abondance, dans le pays de Canaan, et d'être bénis, d'être une source de bénédiction pour les autres nations. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que le parallèle est frappant entre nos ennemis et aussi ce que nous voyons avec Israël. Et nous avons des ennemis. Et ce matin, je n'ai pas le temps justement de donner tous les détails sur les ennemis du chrétien. Mais nous avons des ennemis. Du simple fait que nous sommes des enfants de Dieu, les ennemis de Dieu deviennent nos ennemis. Un peu comme quand j'ai enseigné les mathématiques pour justement aider les enfants, les élèves à se rappeler des règles des signes quand on fait la multiplication des nombres entiers. On parlait de Robin des Bois. Les amis de mes amis sont mes amis. Alors, un plus fois un plus donne un plus. Mais quand on arrivait justement à des ennemis de mes amis sont mes ennemis, un moins fois un plus donne un moins. Alors, les ennemis de Dieu, par ricochet, sont aussi des ennemis de du chrétien. Alors, nous sommes des amis de Dieu. Dieu a des ennemis. Alors, nous sommes aussi des ennemis de ces personnes. Et il y en a trois. Et rapidement, je vous les donne. Il y a le monde. Et sa façon d'opérer contre le chrétien, c'est par la persécution. Parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous est. Et je parle du monde physique. Je parle de ce monde, de système de ce monde, sa philosophie. Je parle justement des gouvernements, de tout comment est-ce que c'est agencé, la façon d'agir, la façon de penser, tout ce qui est contre justement ce que Dieu veut. Ça, c'est le monde. Et quand le chrétien ne conforme pas à ce que le monde veut, mais il y a la persécution. Et vous savez que ici, c'est subtil. Mais si vous allez dans d'autres pays, alors la persécution contre l'enfant de Dieu, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de terrible. Alors, nous avons aussi la chair. Et la chair, c'est cette vieille nature qui est en nous, que nous avons héritée de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous ne pouvons pas l'adoucir, l'améliorer, il est là. Et l'apôtre Pierre va nous dire ceci, « Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Toujours en guerre contre le chrétien, toujours ce penchant vers le mal, cette tentation qui veut toujours nous aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. Et le troisième, nous avons aussi, bien sûr, le diable, celui qui est l'adversaire, celui qui est contre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et comme je répète encore, le but de ses adversaires, c'est de nous empêcher de vivre pleinement la vie d'abondance que Dieu a pour vous et pour moi. Ça, c'est le but de ses ennemis. Et vous savez, ses ennemis ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix. Rapidement, Jésus a dit, « J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Notre vie a été crucifiée avec lui. Romains 6, 6. Christ, par la mort, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais, encore une fois, je fais référence aux soldats japonais. Ils refusent de déposer les armes. Et vous le savez très bien, hein? Vous luttez, comme vous et moi, comme moi aussi, vous luttez contre ses ennemis, vaincus par Christ, mais quand même, ils continuent à se battre. Alors, comment avoir la victoire? Comment faire en sorte que, justement, nous allons de victoire en victoire, même si nos ennemis sont là? Comment avoir plus de victoire que de défaite? Parce qu'ils sont acharnés. Et jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir nous enlever de ce monde, nous allons faire face à ses ennemis. Un peu comme Amalek, génération en génération. La guerre est toujours là. Alors, je vous donne ici, selon le texte que nous avons lu, quatre choses qui nous aident aussi à remporter les victoires. Alors, la défaite, parce qu'on a vu dans le texte que Amalek, Josué, a vaincu Amalek. Mais il y avait justement une progression dans ce qui est arrivé. Alors, la première chose, pour vaincre les ennemis de Dieu, Amalek, ça a pris du courage. Moïse va choisir Josué. Et je ne sais pas pourquoi il choisit Josué. Peut-être qu'il a vu chez ce jeune homme un homme vaillant. On sait que Josué va devenir plus tard le leader d'Israël. Mais déjà, à son jeune âge, premier conflit, il vient de sortir d'Égypte, première bataille, et là, il y a un jeune, et Moïse voit en lui, justement, quelqu'un que je peux demander de prendre en charge cette mission pour protéger les enfants d'Israël et combattre cet ennemi féroce, Josué. Et qu'est-ce qu'il dit à Josué? Il dit, Josué, tu, à ton tour, tu vas choisir des hommes. Et j'ai mis des majuscules. Parce que ça prend du courage. Et Josué, il fallait maintenant qu'il aille en Israël et trouver des hommes semblables à lui, du même trempe que lui. Et fait quoi? Sors et combat Amalek. Et je dis souvent que la meilleure défense, c'est l'offense. Il savait que ce ne serait pas justement une partie de badminton. Ils sont allés justement combattre l'ennemi. Ce serait féroce. Ce serait sans merci. Ce serait un ennemi redoutable. Ce sont des personnes inexpérimentées, mais ils ont du courage. Sans combat Amalek. Deuxième chose aussi que je vois dans cette défaite, une complicité. Josué et son armée vont être dans la vallée. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et là, je vois ici, dans ce contexte ici, là, Josué est jeune. Les commentateurs pensent qu'il y a à peu près 45 ans. Et là, vous avez trois vieux bonhommes. Là. Vous avez Moïse qui a plus que 80 ans. Aaron, c'est son frère aîné, alors il est encore plus vieux. Et Hur, on pense que c'est le mari de la sœur de Moïse. C'est le beau-frère de Moïse, selon les commentateurs. Il s'est marié avec Myriam, justement la sœur de Moïse. Alors aussi, il est un vieux. Mais vous voyez comment est-ce que le Seigneur nous enseigne. Pour avoir cette victoire sur Amalek, ce n'est pas juste la jeunesse, ce n'est pas juste des vieux, mais c'est une belle complicité entre les deux. Et avoir Josué dans la vallée, Moïse sur la montagne, et ensemble, ils vont affronter l'ennemi. Alors, je dis, les jeunes et les vieux formaient une équipe de tonnerre. Troisième chose ici, nous avons la constance. C'est bien d'avoir du courage. C'est bien d'avoir de la complicité, mais aussi, il y a une constance. Et ici, Dieu va apprendre à Moïse une leçon d'importance capitale. Les mains de Moïse, quand Moïse lève sa main avec la verge de Dieu dans sa main, ah, Israël est le plus fort. Et en passant la verge de Dieu, ce n'est pas un bâton magique, là. Puis il est en train de dire abracadabra, ce n'est pas cela. C'est un symbole dans la main de Moïse de la présence et la puissance de Dieu avec eux autres. C'est comme un drapeau que les marines américains ont hissé au sommet de la montagne. Alors, avec cette verge dans leurs mains, Dieu est en train de montrer à Moïse, tu ne peux avoir la victoire que si tu ne dépenses ta dépendance totale sur moi. Alors, quand Moïse lève sa main, il voit justement la puissance de Dieu en action, Israël est le plus fort. Et quand il baisse sa main, mais ça va dans l'autre sens, Israël est faible, Amalek est le plus fort. Alors, il faut qu'il y ait justement, une fois qu'il a appris cette leçon, il faut qu'il y ait une constance, il faut qu'il y ait une persévérance. Et là, il y a une chose qui est normale tout à fait, les mains de Moïse maintenant étant fatiguées. Il y a certains commentateurs qui pensent que, bon, Moïse était en train de prier. Le texte ne dit pas cela. Mais advenons le cas que Moïse était aussi en train de prier, vous pouvez comprendre aussi pourquoi est-ce que le texte nous dit que ses mains sont fatiguées. Parce que dans tout le travail spirituel que vous et moi nous avons à faire pour gagner des batailles, la plus difficile, c'est de prier, intercéder. Ça, c'est le plus difficile. C'est pourquoi il y a peu d'intercesseurs, parce que c'est un travail qui est acharné, c'est difficile. Et nous voyons ici que Moïse, maintenant, ses mains sont fatiguées, mais il sait qu'est-ce qu'il doit faire, mais ses mains sont fatiguées. Et je dis ici qu'il y a un prix à payer pour le combat contre l'ennemi. Combien de vous, dans les situations difficiles, peut-être vous avez passé des nuits blanches? Je sais que mon frère Adama, dans son pays, justement dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des jeûnes et des prières. C'est des personnes qui sont prêtes à payer le prix justement pour avoir la victoire. Et aussi, ce qui est beau dans ce texte, que les mains de Moïse sont restées fermées. Et là, vous avez maintenant, après qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, après qu'ils rencontrent cette difficulté, ils savent aussi, voilà maintenant la clé. Aaron et Hur vient à la rescousse et Moïse doit apprendre qu'il a besoin de l'aide dans ce combat, il ne parviendra pas tout seul. Et ça, c'est une leçon très importante pour vous et pour moi, surtout pour ceux qui sont dans le leadership. Voilà un homme, voilà le peuple qui est en train de combattre ses guerriers. Et Moïse apprend une leçon d'humilité. Assis sur une roche, Aaron hurle pour que ses mains restent debout. Très important de soutenir justement Moïse dans cette situation. Et le texte nous dit aussi qu'il y a eu une victoire complète. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et le mot veut dire que c'était une victoire qui était complète. Amalek a perdu sa force d'être faible, mettre en de combat. Alors vous voyez comment, quand on persévère sous la bannière de Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, comment Dieu est bien à notre secours et il nous donne la victoire. Alors, je vous laisse rapidement avec... OK, avant d'aller plus loin. Dieu voudrait aussi que ce récit soit conservé. Tout d'abord pour Josué. Il a dit, on va écrire qu'est-ce qui s'est passé, on va mettre ça dans un livre. Pourquoi? Parce qu'il savait que Josué aller combattre eux. Ils rentrent dans le pays de Canaan, puis les hommes qui sont là, les personnes, les Amalécites, toutes sortes de nations, les Canaanites qui sont là, ils ne vont pas juste dire, OK, vous êtes arrivés, vous voulez prendre notre pays, OK, tu, on s'en va. Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils se battent. Et là, Dieu voulait encourager Josué pour dire, écoute, rappelle-toi. Quand tu étais dans la vallée, tu étais en train de combattre. Je ne veux pas que tu oublies. Vous avez eu la victoire, mais pourquoi? Parce que j'étais là avec vous. Vous étiez sous ma bannière. Vous avez eu la victoire. Vous avez mis votre confiance. Vous dépendez justement de ma présence et de ma puissance. N'oublie jamais que c'est moi qui ai la source de votre victoire. Et aussi pour Moïse. Moïse, c'est un lieu d'adoration. Moïse va bâtir un autel et lui donnera pour nom l'Éternel, ma bannière. Alors, rapidement, l'application pour nous. L'apôtre Paul va nous rappeler que sous la bannière de Jéhovah Nissi, je parlais de nos ennemis, je parlais justement des combats, je parlais du fait que oui, il peut y avoir des victoires et des défaites, mais comment est-ce que Dieu veut que nous progressions et que nous remportions plus de victoires que de défaites, d'avoir des défaites. Alors, l'apôtre Paul va nous donner cette exhortation. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ça, c'est très important, cette notion de dépendance entière sur Dieu pour vivre cette vie d'abondance. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la pratico-pratique, alors comment remporter la victoire sous la bannière de Jéhovah Nissi? Alors, je vous reprends les mêmes quatre éléments que nous avons vus. Courage. Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Première chose, on ne peut pas éviter les batailles. On ne peut pas éviter justement que les ennemis viennent nous attaquer, mais nous pouvons désirer justement ce que Dieu veut pour nous. De devenir l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut que nous soyons malgré l'opposition. Et ça prend du courage pour dire, je suis tanné d'être toujours vaincu, je suis tanné de vivre une vie médiocre, je suis tanné, Dieu a quelque chose de meilleur pour ma vie. Et ça prend du courage pour dire, ça je veux cela. Parce que c'est sûr que l'ennemi va redoubler les efforts. Mais Paul va dire, saisis la vie éternelle. Nous avons, oui, le salut, oui, nous sommes sauvés. Mais cette autre dimension de vivre pleinement dans la plénitude de l'Esprit Saint, ça c'est une autre chose. Et ça commence quand je dis, c'est ce type de vie que je veux. Courage. Complicité. Dieu nous a donné justement des personnes autour de nous. Je pense à l'apôtre Paul qui était toujours entouré par des frères et des sœurs, des personnes qui l'aidaient parce qu'il savait dans cette guerre où est-ce qu'il était sur la ligne de front, il n'était pas capable lui-même de remporter des victoires. Et je vous ai mis ici, trouver un ou des compagnons de combat. La parole de Dieu nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. Et combien c'est apprécié quand on est dans la bataille. Des fois, on est épuisé, on est fatigué, on n'en peut plus. Et là, vous avez quelqu'un qui vient à côté de vous, un peu comme Aaron et Hur, et dit, OK, tiens, ensemble, on va avancer. Combien c'est apprécié. Trouver la constance. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette vie d'abondance, ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Alors ça, c'est important de persévérer, puis dire, Dieu, tu es là, ta présence est avec moi, ta puissance est là. Qu'importe ce que l'ennemi m'amène, je veux continuer sous ta bannière. Je sais que tu vas me donner la victoire comme tu as donné à Josué et à Moïse. Et finalement, conserver. Combien c'est important de se rappeler. Vous savez, des fois, on devient découragé quand on est dans une situation. Mais est-ce qu'on se rappelle quand on est dans d'autres situations? Ou est-ce qu'on a vu la main de Dieu? On a vu la puissance de Dieu. On a crié à l'Éternel. On a crié à Jéhovah Nissi. Puis il est venu à notre secours. Il nous a donné justement la victoire. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un petit journal rose. Parce que ça, c'est pour les femmes. Mais qu'importe. Prenez un petit calepin, là, puis notez qu'est-ce que Dieu a fait. Et notez les moments où est-ce que vous avez vu ça. Puis ça va être un encouragement. Dans les jours où est-ce que vous êtes tenté de laisser tomber, d'être découragé, vous pouvez revenir un peu comme Josué et dire oui. À Rephidim, Jéhovah Nissi était là. À Rephidim, la présence de Dieu était là. À Rephidim, sa puissance était là. Nous aurons la victoire. David va dire ceci, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pratico-pratique. Vous avez un choix ce matin en quittant ce lieu. Je ne sais pas où vous êtes dans votre lutte, dans la bataille. Avez-vous besoin du courage? Prenez peut-être un aliment que j'ai mentionné. Il y a du courage? Complicité, peut-être dans l'assemblée, vous allez mettre des pattes à ce que je vous dis. Vous allez demander à quelqu'un d'être peut-être un compagnon de combat avec vous. Quelqu'un qui va prier avec vous. Vous pouvez partager justement vos luttes. Constance. Peut-être vous avez besoin de faire un engagement avec Dieu pour dire que je vais persévérer. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à persévérer. Peut-être vous avez besoin d'aller tout de suite chez Walmart, je ne sais pas, puis acheter un petit carnet et commencer à écrire dedans. Où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu fasse dans votre vie? Mais qu'importe, faites. Poser un geste concret. Parce que Dieu, sous sa bannière, nous promet la victoire. Jéhovah Nissi. Et quand l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons voir un autre message dans cette série, Église, voici ton Dieu. Alors, Jéhovah Nissi, celui qui nous fait triompher, la semaine prochaine, Jéhovah Shalom, Dieu, notre paix. Et ça aussi, ça découle de la croix de Calvaire. Christ est ressuscité. La semaine dernière, Adam a parlé du pardon. Mais Christ aussi a vaincu et nous avons vu la victoire. Mais quand Jésus aussi est allé voir ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? La paix soit avec vous. Et nous avons besoin aussi de voir notre Dieu comme un Dieu qui nous offre sa paix. Alors, prions. Seigneur, merci d'être parmi nous. Merci d'être notre bannière. Merci d'être celui qui nous fait triompher quand nous dépendons de toi. Seigneur, tu connais nos luttes. Tu connais nos doutes. Tu connais tout ce qui nous concerne. Seigneur, donne-nous ce matin de tourner nos regards vers toi. Sans doute Josué, qui était dans la vallée, a regardé de temps à autre et il a vu Moïse et Aaron et Hur sur la colline avec la verge de Dieu dans sa main et combien ça a dû fortifier son cœur, combien ça lui a donné du courage, Seigneur, pour persévérer. Alors ce matin, nous tournons nos yeux vers toi. Jésus, toi tu as vaincu, tu as triomphé, tu es notre Jéhovah Nissi. Et merci que toi, tes mains sont élevées parce que ta parole nous dit que tu intercèdes pour nous. Et au contraire de Moïse qui avait les mains fatiguées, qui avait besoin de quelqu'un pour soutenir ses mains, toi, Seigneur, tes mains sont toujours élevées en notre faveur. Tu intercèdes pour nous et nous voulons ce matin te remercier. C'est par nous, avec ta bénédiction, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Et cette semaine, Seigneur, aide-nous à remporter la victoire, demandant ces grâces au nom de Jésus. Amen.